RFI, il est 20h30 à Paris, 18h30 à Conakry et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Nemo en Peace.
La conférence épiscopale de Guinée se positionne sur la durée de la transition. L'Église catholique demande également aux opposants et à la société civile de définir un nouveau cadre de dialogue réellement inclusif. Au Bénin, des propositions pour renouer le dialogue avec le voisin nigérien après la rencontre entre Patrice Talon et deux de ses prédécesseurs, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, qui tentent d'apaiser les tensions entre les deux pays. Des cours d'eau pollués par des déchets miniers dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Résultat, près de 185 personnes légèrement intoxiquées, mais les autorités locales et la société qui exploite la mine assurent que l'heure n'est plus au danger. Et puis du football, la Malawite Tabitha Shawinga passe du Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. La buteuse espère franchir un nouveau cap avec ce transfert. En Guinée, c'est au tour de l'Église catholique de se positionner sur la durée de la transition. Dans une lettre ouverte enregistrée début mai, mais jamais diffusée, la conférence épiscopale invite les autorités à clarifier d'urgence le calendrier de cette transition avec son programme, sa stratégie et ses objectifs. Autre passage à souligner, l'Église interpelle les opposants et la société civile afin que toutes les parties définissent ensemble, je cite, un nouveau cadre de dialogue réellement inclusif. Je vous propose d'écouter le père Louis Bilimou, selon le secrétaire général de la conférence épiscopale guinéenne. Deux mois après l'enregistrement de cette lettre, le message est plus que jamais d'actualité.
En fait, c'est pour citer des faits qui aggravent la situation actuelle et sur lesquels on interpelle et les gouvernants et aussi les gouvernés. Il y a moins d'emplois et puis la flambée des prix des denrées alimentaires. Le manque d'électricité, les routes qui sont défectueuses avec des accidents, bon, disons, toutes ces interrogations sont liées aussi au fait que il n'y a pas de visibilité et puis de lumière sur le chronogramme. Il y a déjà des partis politiques qui sont en train d'annoncer des grèves concernant ce manque de visibilité sur le chronogramme qui concerne la transition. Bon, disons, au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de cette transition qui avait été annoncée, donc il ne peut pas y avoir de changement ou bien de prolongation sans que ce soit en accord, en harmonie avec les uns et les autres pour éviter qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des soulèvements, donc ceux qui pourraient agir sur l'ordre social.
Les propos du père Louis Bilimou, secrétaire général de la conférence épiscopale de Guinée, recueillis par Sidi Yansané. Nicéphore Soglo et Boni Yayi en mission, ces deux anciens présidents béninois ont entamé la semaine dernière une tentative de médiation avec le voisin nigérien. Les relations entre les deux pays s'étant totalement dégradées depuis le coup d'état du 27 juillet dernier et le renversement de Mohamed Bazoum. Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont vu en une semaine les deux parties. D'abord, c'était la semaine dernière, le général Abdourahmane Tiani à Niamey, puis hier, lundi, leur successeur Patrice Talon. Et certaines pistes ont été lancées pour renouer le dialogue. Jean-Luc Aplogan est à Cotonou pour RFI.
Les deux propositions sont contenues dans un communiqué rendu public lundi soir par les médias officiels du Niger. La première proposition est la mise en place d'une commission tripartite composée des représentants du Niger et du Bénin et des deux anciens présidents béninois. La seconde est l'envoi d'une délégation nigérienne de haut niveau à Cotonou pour rencontrer le président Talon. Le communiqué porte la signature de Nicéphore Soglo, de Boni Yayi et du premier ministre du Niger présent à leur rencontre avec le général Tiani à Niamey. Un détail, le dit communiqué date du 26 juin. Les Nigériens attendaient la rencontre de Patrice Talon avec ses deux prédécesseurs pour le rendre public. Du côté du Bénin, la présidence de la République n'a pas communiqué, rien n'a filtré des échanges. On ignore si elle a validé ces deux propositions. L'entourage des anciens chefs d'État signalait hier une volonté des deux parties à voir les choses avancer. De bonnes sources, on apprend que les deux anciens présidents travaillent déjà avec les Nigériens sur la délégation qui sera dépêchée de Niamey pour rencontrer le président Talon à Cotonou. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
RFI, 18h34 à Abidjan, près de 185 personnes légèrement intoxiquées après avoir mangé du poisson et bu de l'eau contaminée. Cela s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une contamination suite au déversement dans des cours d'eau de déchets miniers issus de la mine d'or d'Iti, exploitée par le groupe canadien Endeavour Mining. Aucun mort n'a été recensé. Les autorités locales et la société minière assurent qu'il n'existe plus aucun risque. À Abidjan, les explications de Binta Diagne.
Dimanche 23 juin, la vanne d'un pipeline utilisé pour évacuer des déchets miniers se fissure. Près de 3 mètres cubes de boue et d'eau de décantation se déversent alors dans un canal de dérivation sur près de 5 km et une petite partie aurait pu être déversée vers la rivière Cavalli, affirme le groupe minier. Les scientifiques du CIAPOL, le centre ivoirien anti-pollution, dépêchés sur place, recueillent près de 15 kilos de poissons morts, indique une source proche du dossier. Le préfet de Zouan-Ounien recense 185 personnes souffrant de diarrhée, de ballonnement ou de vomissements après avoir consommé de l'eau et des poissons. La société minière assure que cet incident a depuis été circonscrit. Ce groupe rejette catégoriquement les allégations de pollution massive du fleuve Cavalli et de mise en danger des populations locales, lit-on dans un communiqué. Un second incident serait survenu samedi 28 juin, selon le CIAPOL, qui s'est déplacé pour y faire de nouveaux prélèvements. Les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Le groupe Endeavour assure qu'aucun autre incident ne s'est produit. En attendant d'y voir plus clair, les autorités locales ont interdit la pêche et demandé aux habitants de ne pas boire l'eau du robinet, indique un élu local. Bintayan Abidjan, RFI.
Une enquête préliminaire ouverte en France sur des soupçons de biens mal acquis. Elle vise le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Une source proche du dossier a pu confirmer à RFI ses investigations concernant les dépenses vestimentaires de la présidence de la République. Bonsoir Lisa Fabian.
Bonsoir.
En fin d'année dernière, une enquête de Mediapart faisait état de dépenses s'élevant à plus de 900 000 euros pour l'achat de costumes, de chemises et de vêtements de luxe.
Dans son enquête, Mediapart révélait des versements opérés depuis une mystérieuse société baptisée MHK Full Business, enregistrée à N'Djamena et disposant d'un compte au sein de la banque commerciale du Chari. Le premier virement suspect aurait été réalisé par Mahamat Idriss Déby début décembre 2021, le second le 4 mai 2023. Au total, le président tchadien aurait déboursé plus de 915 000 euros pour acheter des vêtements de luxe chez un célèbre tailleur parisien. La liste dressée par Mediapart donne un aperçu des folies vestimentaires qui auraient permis d'atteindre une telle somme, notamment 57 costumes d'une valeur unitaire allant de 9 000 à 13 000 euros, 100 chemises à 800 euros pièce ou encore 9 sahariennes à 7 500 euros chacune. Une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel a donc été ouverte en France au mois de janvier. Et selon la presse française, les investigations pourraient être élargies au patrimoine immobilier détenu par la famille Déby et son entourage en France. Dans sa récente autobiographie, Mahamat Idriss Déby était revenu sur cette affaire. Il dénonçait une machination politique et affirmait n'avoir jamais été un adepte des costumes.
Lisa Fabian, 21h37 à Nairobi. La contestation ne s'arrête pas au Kenya. Près d'une semaine après le retrait du projet de loi de finances, texte qui avait mené à des manifestations réprimées dans le sang, eh bien, la jeunesse a de nouveau appelé à la mobilisation. En ce début de semaine, plusieurs centaines de manifestants ont battu le pavé dans le centre-ville de la capitale. Des jeunes qui se sont vite heurtés aux forces de l'ordre, puisque cette fois, tout était mis en place pour éviter les rassemblements. Correspondance de Gaël Alex à Nairobi.
Dans les rues du centre-ville ce matin, les policiers en tenue anti-émeute sont légion. Le Parlement, les archives nationales, la Cour suprême sont bouclées, ce qui n'a pas découragé classe.
Aujourd'hui, on ne proteste plus contre la loi de finances, mais contre le président. Il doit démissionner. Tant qu'on est pacifique, tout ça, c'est conforme à la Constitution. Il ne nous aide pas. Vous entendez les gaz lacrymogènes ?
Très vite, les forces de l'ordre utilisent gaz lacrymogène et canons à eau. Elvis ne voit là que l'application concrète de tout ce qu'il reproche au président.
Notre gouvernement est aveugle. Il dilapide l'argent. Quand on demande nos droits, on nous gaze, on nous tire dessus à balles réelles. On ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il démissionne. On est une nouvelle génération et on se bat pour nos droits.
Le président William Ruto a lancé ce week-end les préparatifs d'un grand dialogue avec la jeunesse. Pour Paul, tout cela n'est que poudre aux yeux.
William Ruto se prétend ouvert au dialogue, mais il n'écoute rien. Il a donné une interview dimanche et toutes nos préoccupations n'étaient que du vent pour lui. Aucune de nos questions n'a trouvé de réponse. Sur l'usage de nos impôts, sur les assassinats durant les manifestations, même sur le déploiement de l'armée.
La génération Z a prévu une semaine d'action qui devrait culminer dimanche dans une grande manifestation. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Ce mardi au Congo-Brazzaville, l'ouverture de la première conférence internationale sur l'afforestation, c'est-à-dire boiser une zone longtemps restée sans arbres et le reboisement. Plusieurs dizaines d'experts venus principalement des pays du bassin du Congo étaient réunis. Objectif, faire face à l'urgence climatique et c'est notre dossier du jour. Loïcia Martial est à Brazzaville pour RFI.
C'est la ministre congolaise de l'économie forestière, Rosalie Matondou, qui a prononcé le discours d'ouverture de cette conférence en présence de ses homologues venus du Gabon, du Rwanda ou encore de la Côte d'Ivoire. Leur participation montre, selon la ministre, la prise de conscience face à l'urgence climatique. Deux jours durant, avant les ministres et les chefs d'État, vendredi, les experts vont animer des thèmes liés à la forestation, au reboisement et aux ressources forestières mondiales. D'ores et déjà, ils s'accordent à reconnaître que la principale cause du dérèglement climatique est l'action humaine, allusion faite à l'activité industrielle ou encore à l'agriculture intensive, responsable aussi de la déforestation et des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a pour conséquence, entre autres, les tempêtes, les cyclones, les feux de brousse ou encore l'élévation du niveau de la mer. La meilleure façon de faire face au dérèglement climatique, disent ces experts, est de planter plus de forêts. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et parmi les autres participants donc à cette conférence internationale, on trouve entre autres le docteur Grace Jopol Lubota, enseignant chercheur en écologie et en gestion des forêts à l'université Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Il répond à cette question, quel est l'intérêt de faire revenir la forêt?
L'intérêt de faire revenir la forêt, c'est un double intérêt. La première de choses, la chose la plus capitale, c'est de séquestrer le CO2 atmosphérique à travers le phénomène de la photosynthèse au niveau des arbres. Le deuxième intérêt d'avoir une forêt, c'est augmenter la biodiversité végétale et animale. Et cette biodiversité va fournir ce qu'on appelle les biens et les services aux populations. Alors, ces biens et des services peuvent contribuer à réduire la pauvreté de la population locale.
Ça permet également, j'imagine, de lutter contre l'érosion des sols.
Exact. Donc, dans des sols beaucoup plus mouvants, cette afforestation va aussi permettre de stabiliser le sol pour lutter contre les érosions hydriques.
Au Congo-Brazzaville, comme partout en Afrique, on a besoin de terres pour cultiver, pour se nourrir, de terres agricoles. Comment est-ce qu'on concilie ce besoin avec celui de planter ou de reforester certaines surfaces?
Nous savons très bien que les terres appartiennent aux populations et les populations veulent faire de l'agriculture. Alors, nous plantons en utilisant ce qu'on appelle par le système agroforestier. Nous allons discuter avec la population pour mettre des arbres et en intercalaire, nous allons mettre les cultures pour les besoins agricoles des populations.
De quel type de culture s'agit-il, docteur?
Par contre, nous avons un système agroforestier acacia manioc qui fonctionne très bien, qui a été utilisé en République démocratique du Congo avec des premiers résultats satisfaisants. L'avantage de ce système agroforestier, c'est que la population s'engage à entretenir ces cultures, donc du coup entretenir la plantation pendant les premières années.
On a déjà connu de grands projets de reforestation et de restauration des terres sur le continent. On pense notamment à celui de la Grande Muraille Verte au Sahel qui a du mal à atteindre ses objectifs. Comment est-ce qu'on passe des bonnes intentions à la réalité?
Alors, cette première conférence internationale a pour objectif, entre autres, de discuter avec les partenaires techniques et financiers afin de pouvoir appuyer cette initiative sur la décennie mondiale de la forestation pour attirer les financements climat pour que ces initiatives de la forestation et le reboisement soit vraiment réalisé dans des temps records.
Le docteur Grace Jopol Lubota, il était l'invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi, entretien complet à retrouver en ligne sur www.rfi.fr, tout comme notre dossier du jour. L'actualité en bref au Mali, le MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, groupe armé local allié de l'armée malienne, a annoncé ce lundi l'assassinat d'Ismaïl Ag Aramat, l'un de ses chefs politiques et militaires à Gao. Il a été tué dans la soirée, proche de son domicile. Il avait pris part à plusieurs opérations contre les djihadistes de l'État islamique au Sahel, entre autres à celle qui avait conduit à l'élimination de l'un de ses chefs, Abu Azaifa alias Igo. Certaines sources évoquent une possible action de représailles du groupe terroriste. Le MSA parle d'agresseurs non identifiés et dénonce un acte ignoble qui ne fera pas fléchir sa détermination. La mobilisation de certains passagers du vol Paris-Bamako n'aura pas suffi. Moussa Sako a finalement été expulsé vers son pays d'origine. Moussa Sako, c'est ce jeune homme de 25 ans arrivé en France alors qu'il était encore enfant et sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, faute de titre de séjour valide. Vendredi, grâce à la protestation des voyageurs d'un autre vol Paris Bamako, il avait permis à Moussa Sako d'être renvoyé en centre de rétention administratif, mais ce mardi, la police aux frontières est directement intervenue pour faire pression sur les contestataires. Plus de détails avec Amélie Beaucourt.
Ce qui aura pour conséquence un placement en garde à vue et la perte du billet aller-retour.
Vous pouvez pas filmer, monsieur.
Je vous remercie de votre attention.
Ce mardi après-midi, un avertissement diffusé dans les haut-parleurs d'un avion pour Bamako tente de dissuader les passagers qui refusent de s'asseoir. Pour la deuxième fois en 4 jours, ils ont été invités à retarder le vol pour protester contre l'expulsion de Moussa, 25 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Si l'appel a permis de débarquer le jeune homme vendredi dernier, la pression de la police aux frontières a cette fois eu raison du mouvement de solidarité. Avant l'embarquement, des petits papiers distribués par la PAF donnent le ton. Le fait d'empêcher le décollage d'un appareil est un délit punissable de 5 ans d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende. Bloqué au sol pendant plus d'une heure, le moteur de l'avion se met finalement en route alors que certains passagers restent debout en signe d'opposition. Moussa Sako est donc bel et bien expulsé vers son pays natal, pays dont il dit ne rien connaître. Arrivé en France à l'âge de 5 ans, il vivait à Montreuil avec sa famille. Il a interdiction de revenir sur le territoire pendant au moins 3 ans.
Amélie Beaucourt du service France de RFI. Du sport et du football, la période des transferts bat son plein pendant cette trêve estivale pour les équipes masculines comme féminines et on a appris aujourd'hui que l'une des meilleures joueuses africaines va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. La Malawite Tabita Chawinga est désormais une joueuse de l'Olympique Lyonnais après un passage au Paris Saint-Germain. Cédric De Oliveira.
19 buts en 21 matchs, quasiment un but par rencontre, le chiffre parle de lui-même. La saison dernière avec le maillot du PSG, Tabita Chawinga a survolé le championnat de France féminin au point d'en être la meilleure buteuse. Mais elle a dû se contenter seulement de la Coupe de France dans son armoire à trophées. Visiblement trop peu pour l'insatiable avant-centre malawite qui a choisi désormais d'évoluer au sein de l'Olympique Lyonnais, le meilleur club français, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Prêté l'an passé à Paris par le club chinois de Wuhan, Chawinga est cette fois transférée et elle a signé un contrat de 3 ans pour améliorer son palmarès. À Lyon, elle retrouvera la Norvégienne Ada Hegerberg ou encore la Française Wendy Renard et les duels avec ses anciennes coéquipières du PSG risquent d'être disputés. Mais à 28 ans, Chawinga, auteur également de 6 buts en 12 matchs de Ligue des Champions, semble avoir les armes pour aider l'OL à rester la référence en France et peut-être lui permettre de retrouver le sommet du foot européen.
Cédric De Oliveira, il est 20h47 ici à Paris. Le dossier Afrique Éco du jour, comme hier sur les rives du lac Albert, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, plus précisément dans la province de l'Ituri. Réputée pour son agriculture, elle importe toutefois depuis quelques années des produits maraîchers. La faute aux violences intercommunautaires qui secouent la région et qui empêchent les cultivateurs de se rendre dans les champs. C'est un reportage signé Coralie Pierret.
Au port de Tchomia et Kasseni, les pirogues sont déchargées directement dans des camions sur les berges du lac Albert. Direction Bounia, la capitale de l'Ituri, à une cinquantaine de kilomètres, les marchandises seront ensuite réparties dans différentes localités, aux quatre coins de la province.
Je réponds au nom de Jacques Ngaf.
Et vous êtes capitaine de pirogue ?
Je suis le capitaine de pirogue.
Nous transportons du ciment, de l'huile végétale, des sacs de riz et différents biens de consommation.
Au total, une vingtaine de bateaux se relaient, 3 ou 4 font la traversée entre les deux pays chaque jour. Sur le pont, nous croisons un civil, Olivier, qui se définit comme agent collaborateur de la douane.
Ça arrive de l'Ouganda, direct au port ici de Tchomia.
Et l'inverse ?
Non, seulement l'Ouganda. Je suis ici, ça fait 3 ans.
3 ans et avant ça ?
Avant ça, j'étais enseignant.
Comme Olivier, de nombreux hommes chômeurs ou à la recherche d'un emploi journalier gravitent entre ces deux ports. Nombreux sont des déplacés du conflit qui sévit en Ituri depuis 2017. Un conflit violent où des communautés se disputent sites miniers et terres agricoles sur fond de rivalités ethniques et de racisme. Un conflit qui profite à l'Ouganda, explique Jacob Bimbona, le président des transporteurs du lac Albert.
Il y a des pirogues qui sont ici. Et donc la troisième est là, arrive maintenant. Et vous voyez l'autre pirogue là, ça nous a amené donc les moyens de vivre. Il n'y a que des pommes de terre.
Pourtant, ici, la RDC est une terre agricole.
Terre agricole, mais suite à l'insécurité, il n'y a pas moyen donc, de faire l'agriculture.
Avant, c'était pas comme ça.
Avant, ça n'était pas comme ça. Tous ces produits ne provenaient pas de l'Ouganda.
Un seul produit congolais est exporté de la RDC vers l'Ouganda, l'or. Mais ce trafic invisible est illégal. Selon une étude d'une ONG anticorruption, environ 95% de l'or exporté depuis l'Ouganda est illicite. Coralie Pierret, de retour de Tchomia et Kassémi, RFI.
Le dossier Afrique Éco du jour à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. À suivre sur RFI Accent d'Europe, l'émission qui nous emmène ce mardi à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, où des rencontres entre étudiants sont organisées pour apaiser les dernières rancœurs qui pourraient exister entre les deux voisins. La guerre et notamment la destruction de Varsovie en 1944 par les nazis est encore dans beaucoup de mémoires. Un crime dont Perrine, étudiante française en master d'histoire, tire un enseignement aujourd'hui.
De nouveau, continuellement se battre pour que la démocratie reste et que les gens puissent y vivre librement et ne pas subir, en fait. Le plus subir, en fait. Et c'est aussi ça aussi qui était important dans l'insurrection de Varsovie, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas voulu subir passivement, en fait. Ils ont combattu jusqu'au bout, et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire.
Accent d'Europe, c'est du lundi au jeudi sur RFI à 19h10, temps universel. Une demi-heure plus tard, grand reportage sur l'île de Chypre qui en 1960 devient officiellement indépendante après le départ des Britanniques. Très vite, des tensions apparaissent entre Grecs majoritaires et Turcs minoritaires. Et en 1974, un coup d'État téléguidé par Athènes amène l'invasion des troupes turques au motif officiel de protéger la minorité turcophone. Depuis, l'île est divisée en deux, une plaie qui ne s'est jamais vraiment refermée du côté des Chypriotes grecs.
La division de l'île, cette injustice faite à Chypre, c'est quelque chose que nous avons sans cesse à l'esprit. À présent, cela fait 10 ans que je ne suis pas retourné du côté occupé, mais j'y étais allé parce que ma femme est originaire de cette partie de l'île et que je voulais voir le lieu où elle avait grandi. J'y étais aussi passé 2-3 fois avant l'invasion, mais j'étais petit. Très clairement, le fait de revenir sur place et de prendre conscience de tout ce qui s'y est passé, cela a provoqué chez moi comme une douleur à l'âme.
Chypre coupée en deux, les 50 ans d'un écartèlement. C'est un grand reportage en République de Chypre, signé Joël Bronner. Et puis, couleur tropicale, les invités ce soir, Stone Warley et Jimmy Finger. Le premier Congolais nous présente Genesis, son nouvel album aux sonorités afro-urbaines. Le second, compositeur phare du rap français, nous présente son premier album intitulé Beat It. Ils sont au micro ce soir de Kaizloom et de Loram Bakop. RFI, il est 20h52 ici à Paris. Suite de cette première édition d'Afrique Soir, tout de suite, il est 20h53 ici à Paris. Il vient d'arriver dans ce studio, vous avez déjà reconnu son générique, c'est Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Nemo, bonsoir à nos auditeurs.
Hervé, lorsque vous êtes là, on prépare nos bloc-notes pour enrichir nos playlists des vacances et vous ouvrez votre chronique avec la chanteuse haïtienne Darlene Desca.
Darlene Desca, oui, qui poursuit l'exploitation de son album Face à Face, bien qu'il se soit écoulé un peu plus d'un an depuis la sortie de cet opus, très bien accueilli par le public, ceci dit. Cette fois, c'est avec le single This Love qu'elle compte nous faire danser, elle qui est devenue une artiste incontournable de la scène caribéenne ces dernières années.
Je n'y en veux pas.
parlait d'Arlene Desca et son ambiance caribéenne, voici le rappeur Soprano qui nous plonge dans le rythme de l'océan Indien.
Soprano est plus motivé que jamais à nous faire bouger durant les prochaines vacances et pour ce faire, il dégaine le Mbaba, un titre à ma piano avec une touche urbaine qui plaira au public du continent et aussi à la diaspora. Le rythme est efficace et les paroles le sont tout autant. Pour info, Mbaba est un des surnoms de Soprano dont le véritable patronyme est Saïd Mbaba.
Mbaba est sapé, Mbaba est capé, Mbaba est soigné, Mbaba est tracé. Mbaba est concentré, Mbaba est diamanté, Mbaba est BG, Mbaba est chargé.
Rapa papa, rapa papa papa papa, rapa papa papa, rapa papa papa papa, rapa papa papa, rapa papa papa papa, rapa papa papa, rapa papa papa papa.
Notez que cette chanson de Soprano figure en très bonne place dans les tendances musicales de la semaine. À présent, direction Sao Tomé avec le groupe Kalema et le chanteur Taek.
Kalema et Taek ont profité de la fête de la musique pour dévoiler leur morceau commun « Dis-le-moi ». Une collaboration inédite, restée longtemps cachée. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, le titre « Dis-le-moi » est accueilli timidement par le public qui semble ne pas être emballé par le projet, même si le produit est de bonne facture. Un faible démarrage pour les mastodontes que sont Kalema et Taek, habitués des gros chiffres. On observe les mouvements dans les tendances ces prochaines semaines.
Où tout est tracé, tout est déjà tracé. Trop longtemps je ne dors pas la nuit, tu ne mérites que mes larmes. Et tellement glacé, ton corps est si glacé. Dis-moi juste que tout est fini, puis je déposerai les armes.
Et pour terminer cette chronique en beauté, Hervé, direction les plages de la Guinée équatoriale avec la chanteuse afropop Vanilla Carr.
Vanilla Carr, de retour en duo avec son compatriote Romy Solove. Tous les deux s'identifient à l'afrobeat et ses sous-genres. Pour votre gouverne, sachez que Vanilla Carr n'avait encore rien publié depuis le 17 juin 2023 et le titre Quata. Elle ouvre donc son compteur personnel de l'année en dévoilant Totori, chanté en anglais et en français pour se rapprocher du public anglophone, un marché difficile à pénétrer en temps normal. Espérant que Vanilla Carr et Romy Solove atteignent leurs ambitions musicales, et c'est la Guinée équatoriale.
C'est toujours un plaisir de découvrir vos sélections, mon cher DJ Facemaker. Et je rappelle qu'on les retrouve dans l'Afro Club de RFI Music. On vous retrouve jeudi à ce micro.
Merci Nemo et je salue nos auditeurs de Lomé bien câblés sur la fréquence 91.8. À jeudi.
Il est 20h58 ici à Paris. Cette demi-heure qui se referme en musique. Le prochain point sur l'actualité africaine dans une demi-heure, tout de suite sur RFI. Un nouveau journal, ce sera avec Paul Loncin Spinelli. Il sera 19h en temps universel.
RFI Planète Radio, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement, lance l'édition 2024 du concours vidéo Hip-Hop.
Prenez vos smartphones et captez le ressenti des femmes et des hommes qui affrontent les conséquences des changements environnementaux et climatiques dans leur localité. Participez aux formations en ligne et envoyez vos vidéos de 3 minutes maximum à concours.epop.network.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour tenter de gagner des bourses de production et des diffusions dans de grands festivals européens. À vous de jouer, on est toujours ensemble avec Hip-Hop.
Ce mardi sur RFI.
Comment se mettre dans le cerveau d'un champion?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Le chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud a interrogé des athlètes de haut niveau passés maîtres dans l'art de se concentrer pour exceller dans le feu de l'action. Comment développer nous aussi la force tranquille et la concentration mentale d'un champion ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.